Les experts sur France Bleu Cotentin, toutes vos questions jardin avec Christophe Guérand.
Il est là, il a le nez dans ses bouquins de jardin. Alors qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous étiez en train de regarder? Tiens, dites-moi.
J'étais en train de regarder par rapport à la question d'une auditrice qui a envoyé une photo d'un olivier qui est malade. Ses feuilles présentent des taches, donc en train d'essayer d'identifier le plus précisément possible le champignon dont il s'agit.
Christophe Guérand, notre expert jardinier, est avec nous. Jusqu'à 10h moins le quart, vous pouvez nous appeler, vous pouvez poser toutes vos questions en ce qui concerne le jardin, vos plantes, votre potager. Le numéro de téléphone de France Bleu Cotentin, c'est le 02 33 23 13 23. De toute façon, Christophe, vous avez réponse à tout. Vous avez toutes les réponses aux questions qu'on se pose.
On essaie de répondre à tout. Répondre à tout, c'est pas toujours évident, parce que comme je l'indiquais tout de suite, quelquefois c'est nécessaire d'avoir une photo sous les yeux, d'avoir un échantillon sous les yeux. Ça me permet de mieux identifier. Mais quelquefois, l'identification de certains champignons est parfois assez délicate à effectuer.
Bon, on va vous mettre au défi encore ce matin, Christophe Guérand. Allez, c'est parti.
Pour poser votre question jardin à Christophe Guérand, appelez France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
Et c'est Martine qui ouvre le bal ce matin. Bonjour Martine.
Oui, bonjour Christophe.
Bonjour Martine.
Et moi c'est Ludo, bonjour Martine.
Bonjour Ludo.
Vous nous appelez de Deneuville et vous avez une question à propos de vos fraisiers.
Oui, alors j'ai deux questions. Une par rapport à des fraisiers, on les a depuis plus d'une dizaine d'années, ils étaient en terre à l'extérieur, et depuis cette année, on les a mis en serre aérée, dans des bacs à fleurs. Hein. Bon, alors les fleurs sont belles, mais on a les feuilles sont belles, je veux dire, les fleurs sont pas mal aussi, mais on n'a pas beaucoup de fraises, et petites surtout. Alors, est-ce que le fait de les avoir changées, ça peut avoir une incidence aussi?
Oui, alors effectivement, le fait de les avoir transplantés, bon, malgré, j'imagine, tout le soin que vous avez pu prendre pour mettre un terreau qui soit adapté,
oui.
Effectivement, ça peut expliquer une partie des choses. Et puis le fait que ce soit dans un lieu plus ou moins fermé, une serre, peut-être que la pollinisation par les insectes se fait un petit peu moins bien, et de ce fait-là, vous avez peut-être un petit peu moins d'insectes qui viennent polliniser, donc un peu moins de fraises à la fin. C'est possible, hein, c'est possible que ce soit l'explication. Maintenant, certaines variétés de fraisiers se plaisent plus ou moins bien en serre. Il y en a qui marchent plus ou moins bien. Alors, il y a des variétés qui sont quasiment auto-fécondes, donc là, il y a moins besoin de la présence d'insectes. C'est vrai que c'est pas mal d'en avoir à l'abri, ça permet d'en avoir un petit peu plus tôt dans la saison. Essayez peut-être d'autres variétés un petit peu mieux adapté que cela. Et puis, si vous avez la possibilité, essayez de les mettre en pleine terre dans votre serre. Ce sera aussi bien.
Là, ils sont en pot, donc c'est assez confiné malgré tout.
Bah oui, de toute façon, c'est vrai que le fraisier, même s'il a un pot relativement grand, mais c'est toujours préférable. Quand on cultive des plantes en pot, il y a toujours, on vise pas forcément tout à fait bien la composition du terreau, donc on est obligé de rapporter un petit peu des compléments pour des plantes en pot. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des fraisiers, par exemple en pot, même sur une terrasse. On peut les ramener et avoir des fruits au fur et à mesure, mais là, c'est toujours un petit peu plus compliqué en pot.
Oui, on pensait plutôt par rapport à la météo, c'est vrai que bon...
C'est vrai qu'on a eu quelques fois, enfin, on a eu quand même un mois de mai relativement correct. Maintenant, en serre, ça a moins d'influence quand même. Hein, donc,
Est-ce qu'il faut peut-être les remettre en pleine terre, à l'extérieur? Non, pas forcément.
Non, mais si vous avez la possibilité, si vous avez un petit peu de place dans votre serre, de les mettre carrément en pleine terre dans la serre.
D'accord. Et puis j'avais une... Alors, merci. Et j'avais une deuxième question.
Rapidement, Martine. Rapidement, Martine.
Oui. Par rapport à des courgettes. Alors, les courgettes, c'est vrai que ça prolifère un peu. Est-ce qu'on doit couper régulièrement les feuilles?
Dans la mesure où celles-ci ne sont pas malades, parce que c'est vrai que bien souvent, par exemple, en fin de saison, les courgettes sont atteintes d'oïdium, et là, on peut supprimer les feuilles malades. Mais autrement, non. Il n'y a pas de nécessité. Les feuilles, elles nourrissent la plante, donc elles nourrissent les fruits. Donc, non, il n'y a pas de nécessité de couper les feuilles.
Bon, sinon, ça s'étale. Mais merci beaucoup, en tout cas.
Merci, Martine. Ouais,
Martine.
Bonne journée. À bientôt. On accueille Marilyn. Bonjour, Marilyn.
Oui, bonjour.
Bonjour, Marilyn.
Alors, Marilyn, vous avez une question à propos de votre olivier, c'est bien
voilà,
ça?
Voilà, qui perd ses feuilles.
Alors, voilà, que peut-il faire, docteur?
Alors, vous avez envoyé une photo, et effectivement, cet olivier, bah, il est atteint d'une maladie qui est assez courante, qui est la maladie due à un champignon, encore une fois, la maladie qui s'appelle de l'œil de Pan, parce que ça fait une trace au niveau de la feuille qui pourrait faire se penser au dessin qu'on voit sur les plumes des pans.
Oui.
Donc, alors, c'est un champignon qui est assez courant sur les oliviers. Ça fait combien de temps qu'il est planté, cet olivier,
Marie-Lise?
D'accord. Et quand vous l'avez eu, est-ce que vous avez constaté qu'il avait déjà cette maladie ?
Ben non, pas du tout, non. Ça fait à peu près un mois.
D'accord.
On a vu que les feuilles tombaient, quoi, et on a regardé de près, et on a vu ça sur les feuilles, quoi.
D'accord. Alors, bon, donc, parce que quelquefois, c'est vendu avec, hein, sans supplément de prix, mais c'est vendu avec, quelquefois.
Donc, ah oui.
Donc, vérifiez déjà bien que au niveau de la plantation, vous avez pris toutes les précautions de façon à ce que il y ait un bon drainage au niveau du sol. Hein. Ça, c'est impératif parce que ça peut favoriser l'apparition de cette maladie-là. Des excès d'eau au niveau racinaire pourraient éventuellement amplifier le phénomène. J'ai vu que vous aviez mis du gravier par-dessus, dessous. Vous n'avez pas mis de bâche.
Alors là, je peux pas vous dire, c'est mon mari qui a fait ça.
D'accord, parce que là, quelquefois, c'est bien de bâcher, mais dans le cas, par exemple, de l'olivier, faut que les racines arrivent à respirer correctement. Donc, si c'était le cas, faudrait modifier un petit peu cet aspect-là des choses.
D'accord.
Maintenant, au niveau de la plante elle-même, surtout ramasser toutes les feuilles au fur et à mesure qu'elles tombent, de façon à éviter la propagation et la diffusion de la maladie au niveau de la plante.
D'accord.
Et puis, vous allez faire un traitement au cuivre. Hein, c'est le produit
contre les champignons, c'est toujours le cuivre qui fonctionne bien.
C'est le cuivre qui va fonctionner le mieux. Donc plusieurs pulvérisations pour essayer de venir à bout, de limiter le développement de cette maladie-là. Et puis si vraiment vous avez des rameaux qui étaient très atteints, des feuilles très atteintes, éventuellement vous pouvez les supprimer de façon à limiter encore une fois le développement de la maladie. Bon, faut savoir que c'est une maladie qui est très courante sur l'olivier. Dans les pays de culture de l'olivier, ça fait quelquefois de gros. Ça impacte assez les plantes, mais bon, ça ne va pas jusqu'à les détruire complètement, ça ne les fait pas mourir, mais enfin, ça peut quand même considérablement ralentir la pousse de ces arbres. Donc, avec ces quelques précautions et ce traitement-là, ça devrait rentrer dans l'ordre, peut-être pas très rapidement, mais enfin, disons, d'ici la fin de la saison.
D'accord. Et le traitement, on trouve ça en...
Ça, vous trouvez ça très facilement en jardinerie, en grande surface. Hein. La bouillie bordelaise, c'est un produit qui est très, très, très courant. Hein. Donc, vous respectez surtout bien les conditions d'emploi et les dosages. Et logiquement, ça devrait rentrer dans l'ordre.
Voilà, d'accord. Vous savez tout, voilà, Marilyn.
Merci beaucoup.
À bientôt, Marilyn.
À bientôt, bonne journée.
02 33 23 13 23 pour poser toutes vos questions jardin à Christophe Guérand ce matin. France Bleu.
Maintenir les commerces en milieu rural, faire venir des médecins.
Oui, mais c'est un projet qui date de plusieurs années, depuis 5 ans.
Attirer de nouveaux habitants.
Des projets au niveau de la commune pour des nouveaux logements HLM, des nouveaux lotissements, et notre nouvelle école.
Ça, c'est le quotidien des maires de la Manche. Et ce quotidien, ils nous le racontent tous les matins sur France Bleu.
Les bornes sont utilisées par les touristes d'abord et les personnes qui fréquentent nos commerces.
Ça bouge dans la Manche du lundi au vendredi à 6h50.
Du 28 au 30 juin, les Arzimutés ont rendez-vous sur la plage verte de Cherbourg-en-Cotentin. Au programme, du théâtre, des spectacles de cirque, des arts plastiques, un éco-village et bien sûr de nombreux concerts avec notamment Naaman, Kenny Arcana, Fier Villa, Bafang, Chill Bump et bien d'autres. Rendez-vous dans vos billetteries habituelles, retrouvez toute la programmation du Festival des Arzimutés et les infos pratiques sur francebleu.fr.
Ce week-end, c'est les portes ouvertes chez Peugeot Marie Automobile. Découvrez la Peugeot 108 Style avec écran tactile Bluetooth et entretien offert à partir de 79€ par mois. Roulez surclassé avec Style. Offre valable en location longue durée sur 37 mois après un premier loyer de 850€. Voir conditions en concession.
Dimanche 17 juin, PMU vous donne 10 millions de raisons de parier sur vous. À l'occasion de la journée du Prix de Diane Longines, 4e étape des Epic Series, PMU met en jeu une super tirelire exceptionnelle de 10 millions d'euros sur le Quintet Plus. Oui, 10 millions d'euros. Une occasion pareille, ça ne se manque pas. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin, les experts avec Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
On accueille Denise Ova. Comment ça va, Denise ?
Oui, très bien, merci.
Bonjour, Denise.
Voilà, à part que le temps est gris, enfin, ça va.
Bah, on espère que le soleil va percer les nuages aujourd'hui. Hein.
Bah, j'espère.
Avec un petit peu de chance, c'est ce qui va se passer.
D'accord.
Alors, Denise, quelle est votre question ? On vous écoute.
Moi, je voulais vous demander, parce que j'ai deux arbres, là, qui c'est... Comment, je ne sais pas comment vous dire, c'est la première couche de qui s'en va de comment, je ne sais pas comment vous dire.
Ah bah nous non plus, on va pas savoir le dire, Denise, c'est ça qui est ennuyeux.
Vous voulez, vous savez, la première...
Sur l'écorce, vous...
Oui, sur l'écorce, voilà.
D'accord, vous avez une partie de l'écorce
qui s'enlève.
D'accord, mais c'est...
Voilà.
Bon, ça c'est un phénomène... pardon, c'est
normal.
C'est un phénomène tout à fait normal.
Ah bon?
Avec le temps, avec l'âge, l'écorce, les tissus superficiels de l'écorce vont vieillir et puis vont finir par se détacher. Sur des arbres relativement jeunes, on ne le voit pas encore. L'écorce en général est lisse, mais avec le temps, l'écorce se dégrade et donc vous avez une partie de cette écorce. Sur des arbres comme des eucalyptus, par exemple, c'est assez spectaculaire parce que ça se renouvelle tous les ans et il y a des lambeaux entiers d'écorce qui vont tomber. Sur les arbres fruitiers, ça s'en va par petits morceaux, par petits carrés, mais c'est un phénomène tout à fait normal.
D'accord. Et puis alors, j'ai des fruits qui tombent.
D'accord.
D'habitude, le cerisier, ben, je les trouve, ça descend, quand j'en ai pris des exemplaires.
Alors, il s'agit de la totalité des fruits, Denise, ou bien quelques fruits ?
Quelques fruits, j'en ai pas mal qui descendent, j'en ai pas beaucoup. Hein.
D'accord, alors qu'il y ait une partie des fruits qui tombent, c'est aussi un phénomène normal. Il y a un éclaircissage naturel qui se fait, si vous voulez. Quand il y a trop de fruits sur un arbre, que ce soit un pommier, prunier, cerisier, eh bien il y a une partie des fruits qui vont tomber naturellement. Il y a un éclaircissage chimique, entre guillemets, qui va se faire. C'est un équilibre des hormones à l'intérieur de la plante qui fait qu'il y a une partie des fruits, je dirais, en excédent qui vont tomber. Alors par exemple, sur les pommiers, par exemple, vous avez sur un bouquet de fleurs qui a 5, 6, 7 fleurs, il va en rester que 3. Si la totalité restait, il n'y aurait que des petits fruits. Et là, ça permet d'avoir des fruits un petit peu plus gros. Alors ça, c'est une première explication. Et puis quelquefois, vous avez, alors sur les cerisiers ou pruniers, vous pouvez avoir un autre phénomène qui se produit, c'est que vous avez des mouches qui viennent pondre. Et quelquefois, quand il y a une trop forte attaque, là, à ce moment-là, les fruits ne se forment pas et vont tomber avec à l'intérieur la larve qui va se développer, la larve de cette mouche qui va se développer. Ça, c'est une autre raison de la chute possible des fruits. Mais à ce moment-là, vous allez voir que sur les fruits, vous allez voir une tache marron sur le fruit qui est encore vert. Et là, ça voudrait dire qu'il y a eu une attaque de mouche du cerisier. Alors, il est trop tard pour intervenir. Par la suite, faudra mettre, on trouve des pièges des pièges à phéromones qui sont tout à fait adaptés à la mouche du cerisier. Il faudra les mettre en place juste après au moment de la floraison, au moment de la nouaison, pour éviter ce genre de désagrément. Vous mettez ça en place, ça capture ces mouches qui viennent pondre au niveau des fruits, et ainsi vous aurez des fruits beaucoup plus sains. Mais là, faudrait être sûr que, pour mettre ce piège en place, que les fruits ont bien été attaqués par ça. Dans l'autre cas, il s'agirait donc d'un éclaircissage naturel.
D'accord, parce que j'ai mes pruniers, c'est pareil, la prune, à l'intérieur, il y a des petits vers.
Oui, alors dans ce cas-là, il s'agit donc bien d'une attaque de ces mouches qui viennent pondre à l'intérieur. Donc là, il faut adapter et mettre des pièges. Alors, il existe également des pièges de couleur, des pièges de collants, et les mouches viennent se coller sur les fruits. Ça n'élimine pas complètement la mouche du cerisier ou du prunier, mais ça limite quand même grandement les attaques.
D'accord.
Vous savez tout, Denise.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée,
Denise.
Merci,
Denise.
Au revoir.
Thierry de Tonneville. Bonjour, Thierry.
Oui, bonjour.
Bonjour, Thierry.
Vous avez une question à propos de votre frangipanier.
Oui, tout à fait. Alors, mon frangipanier. Donc, ça fait 4 ans et demi qu'il est en pot. Donc, tous les ans, j'ai des feuilles. Ça, il pousse très, très bien. Et cette année, j'ai eu la chance d'avoir des fleurs. Le seul souci, c'est que quand elles commencent à sourire, elles tombent.
D'accord. Alors, Bon, déjà, c'est déjà bien de réussir à le maintenir. Le frangipanier, hein, c'est un arbre d'origine exotique quand même, qui a quand même relativement du mal à pousser correctement sous nos climats, même à l'intérieur.
Oui.
Donc, c'est déjà bien de le maintenir en forme et qu'il fasse des feuilles régulièrement. Maintenant, c'est vrai que obtenir une floraison et une floraison qui dure, c'est quelquefois un petit peu délicat parce qu'encore une fois, on n'a pas tout à fait le même climat que sous les tropiques. Ça viendra peut-être un jour, mais pour le moment.
Sur la Côte d'Azur, ça serait envisageable, mais.
Ça doit être maintenu en pot parce que c'est quand même très frileux comme plante et ça ne peut pas être maintenu en hiver en extérieur. Donc c'est uniquement en intérieur. Et c'est vrai que le climat, par exemple, un petit peu trop sec de l'intérieur d'une maison, même d'une véranda, fait que les fleurs, même si elles arrivent à se former, ne vont pas résister. Alors il peut s'agir d'une chute due à ces conditions climatiques, un petit excès d'eau, un petit manque d'eau, même assez bref, peut
provoquer... Un stress hydrique.
Voilà, un stress hydrique, tout à fait, c'est le terme qui convient.
Si vous avez une question, vous me dites.
D'accord, je vous laisserai pour la suite de l'émission. il peut s'agir de ce genre de choses. Il peut s'agir d'une attaque d'un champignon, type botrytis, qui va faire que la fleur s'est bien formée, mais dès qu'elle commence à s'ouvrir, ce champignon va attaquer. Sur certaines plantes, ça ne peut ne provoquer que des taches au niveau des fleurs, mais sur d'autres, ça provoque la chute de ces fleurs. Alors, malheureusement, c'est dommage, parce que s'il est bien en forme, c'est dommage de ne pas bénéficier de la floraison, parce que c'est vraiment une floraison magnifique. Mais bon, allez, un petit peu de patience, un petit peu encore de temps, et puis vous arriverez peut-être à avoir... mais je vous dis, c'est quand même quelque chose de relativement difficile à obtenir une belle floraison sur ce type de choses qui est une plante relativement fragile. Donc c'est déjà bien de l'avoir en forme comme ça.
D'accord. Mais malheureusement, je tiens juste quand même à préciser parce que j'ai eu une petite attaque des petites araignées rouges. Ça fait au moins un petit dixième. Donc j'ai réussi à éradiquer ça avec du savon noir. Est-ce que j'ai bien fait?
Oui, tout à fait. Oui, c'était une bonne solution. Et ça peut-être aussi expliquer un choc comme ça dû à une attaque d'un parasite. Ça peut aussi expliquer ce genre de phénomène qui se produit assez couramment sur certaines plantes. Mais là, je vous dis encore une fois, c'est une plante relativement fragile. Et ça fait partie un petit peu du jeu, je crois. Voilà.
Le but, c'est de le maintenir en vie, ce frangipanier.
Oui, c'est ça. Donc, il faudrait que je continue. Enfin, je l'arrose quand même assez souvent. Et ce qu'il faudrait que je fasse plus, si je le laisse à l'intérieur, le vaporiser peut-être, non, sur les feuilles.
Alors, éventuellement, mais sans excès non plus. C'est vraiment, vous savez, c'est vraiment
C'est délicat.
C'est vraiment délicat. Même si un excès d'eau, même au niveau du feuillage, pourrait provoquer également ce type de phénomène. Donc, voilà, c'est d'arriver vraiment une très bonne exposition, le plus ensoleillé et le plus chaud possible.
Je m'en occupe, mais.
Je
partais pas en vacances, en fait, Thierry, c'est ça? Vous vous occupez de votre frangipanier tous les jours, toute l'année?
Non, quand même pas, non.
Non, mais voilà, c'est encore une fois, c'est déjà bien d'avoir réussi à le maintenir. Maintenant, réussir à maintenir la floraison, c'est pas toujours évident.
Très bien, merci de vos conseils quand même.
Pour votre frangipanier, merci, à bientôt Thierry.
Merci.
02 33 23 13 23 pour poser une question à Christophe ce matin, n'hésitez pas.
Pour poser votre question jardin à Christophe Guérand, appelez France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
Is this love? C'est pour faire plaisir à Léa, notre chargée d'accueil. C'était Bob Marley sur France Bleu Cotentin.
Les experts sur France Bleu Cotentin, toutes vos questions jardin à Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Michel à Équeurdreville-Enneville. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Vous avez une question à propos de votre pommier, Michel?
Oui, alors j'ai acheté un pommier au mois de mai. Il avait des petites fleurs, tout un jeune pommier. Donc je l'ai planté comme il marquait. Et donc là, des petites taches marron-rouge apparaissent sur les feuilles.
D'accord. Et vous avez une chute de ces feuilles qui se produit ou bien il n'y a pas
Non.
D'accord. Alors bon, là il s'agit encore d'un champignon qui va attaquer ces feuilles de pommier. Bon, quand l'attaque n'est pas trop importante, à la limite on pourrait pratiquement laisser faire. Si c'est la totalité des feuilles qui est attaquée, là va falloir essayer d'intervenir quand même. Quelquefois c'est dû aux conditions climatiques, hein, c'est pas dramatique. Alors toujours ce même produit qui marche bien sur les champignons en cas de nécessité, c'est le cuivre.
Le cuivre, j'allais dire.
La bouillie bordelaise, hein, qui va marcher. Faudra intervenir si vraiment la totalité de l'arbre venait à être atteint. Ce que vous pouvez faire quand même, bon, c'est un arbre qui vient d'être planté, donc il y a quand même le stress dû à la plantation. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement utiliser des purins de prêle ou d'ortie. Pour le renforcer un petit peu, ça va participer à le booster un petit peu, hein, pour le départ, parce que faut le temps qu'il refasse des racines, faut le temps qu'il colonise le sol, faut le temps qu'il s'installe. Donc là, il est un petit peu stressé ce pommier. Donc une pulvérisation au niveau du feuillage d'ortie ou de prêle. On trouve également de la fougère qui marche pas mal non plus. Et là, ça va lui donner un petit coup de fouet qui va lui permettre de mieux résister aux maladies. Hein. C'est un petit peu comme nous quand on est un petit peu patraque. Eh ben on attrape plus facilement un rhume. Ben le pommier là, il est pareil. Il faut le fortifier un petit peu.
Oui, mais alors le cuivre, j'y pensais parce que j'en ai un peu. Là, vous m'aviez dit pour un noyer qui pousse parfaitement, mais je ne peux pas le pulvériser maintenant.
Ah si, c'est un produit à condition bien sûr de respecter les règles de traitement et surtout les dosages. Vous pouvez tout à fait utiliser du cuivre tout de suite à pulvériser sur les feuilles pour limiter le développement de ce champignon.
Ah bon, merci.
Voilà Michel.
Merci Michel.
Bonne journée, merci, au revoir.
Bonne journée Michel. On accueille Jeannette. Bonjour Jeannette.
Bonjour à tous les deux.
Vous nous appelez de Sioux-Ville-Hague. Oui. Et vous avez une question à propos de votre actinidia, l'arbre à kiwi. Je l'ai bien dit, Christophe, oui. C'est ça?
Tout à fait, c'est bon.
Vas-y, posez votre question, Jeannette, on vous écoute.
J'ai donc deux actinidia, un mâle et une femelle.
D'accord.
Ils ont 4 ans. Le mâle a fleuri déjà 2 fois. La femelle seulement une fois l'année dernière, j'ai donc eu des kiwis. Cette année, la femelle est en train de fleurir et le mâle n'a pas une seule fleur.
Ah, d'accord, il n'a pas de fleurs. Bon, alors.
Du tout.
D'accord, c'est assez curieux parce que là, s'il a déjà commencé à fleurir, bon, d'autre part, il est bien en forme, il a bien.
Ah, il est en super forme, il me fait des nouvelles branches qui ont déjà 1m50.
D'accord, oui, c'est vrai que c'est une plante qui peut être assez envahissante. Hein. Il faut savoir que dans son pays d'origine, la Chine, ça pourrait être considéré comme des ronces chez nous. Hein. C'est une plante qui va être extrêmement vigoureuse, qui peut faire des lianes qui vont atteindre avec l'âge quelquefois 7-8 mètres de long, donc faut bien penser.
Faut le tailler régulièrement.
Ah oui, il faut que ce soit taillé assez régulièrement en plein cœur de l'hiver. Bah alors pour ce qui est de votre kiwi, il n'est pas dans une situation trop à l'ombre.
Bah non, il est. Il pousse sur le long d'un mur, sur un grillage.
D'accord.
Et il a bien vécu en plein soleil.
D'accord, parce que ça peut être une des explications, une plante qui se retrouve trop à l'ombre a des difficultés quelquefois à fleurir. Bon, là, si ce n'est pas le cas, s'il y a un bon développement au niveau du feuillage, il s'agit peut-être d'un petit manque éventuel de phosphore et de potasse. Donc ce sera peut-être à lui rajouter un petit peu. Hein, vous trouvez des engrais d'origine naturelle, des phosphates naturels, lui remettre un petit peu ça pour le booster de ce côté-là. Maintenant, bon, pour cette année, vous avez peut-être, si vous avez la chance qu'il y ait à proximité d'autres actinidia, les insectes, c'est pas parce que systématiquement vous n'avez pas de floraison mâle juste à côté que vous n'aurez pas de fruits. Il faut savoir que des abeilles, elles vont faire plusieurs kilomètres pour aller chercher du nectar dans les fleurs, et s'il y a d'autres actinidia à proximité chez vos voisins, vous aurez peut-être la chance quand même d'avoir une pollinisation, peut-être un petit peu moins, mais faut pas désespérer, vous aurez peut-être quand même une pollinisation et donc des fruits à la suite. Donc pour cette année, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne refleurissent pas les années suivantes. Ils boudent un petit peu, peut-être, cette année. Donc, voilà, c'est, vous savez, ce sont toutes ces floraisons, c'est dû à des phénomènes naturels, et quelquefois, eh ben, il manque un élément pour que...
Manque un petit insecte qui aurait fait son boulot, qui aurait transporté...
Non, c'est plutôt des conditions au niveau des conditions climatiques. Quelquefois, vous avez une alternance aussi, par exemple, sur les pommiers. Une année, vous pouvez avoir une floraison superbe avec des fruits par centaines, et puis l'année suivante vous n'avez aucune floraison, il y a un phénomène d'alternance. Normalement chez le kiwi il n'y a pas ce type de choses, il doit fleurir assez régulièrement. Maintenant là, il y a certainement eu un petit manque à un moment donné qui fait qu'il n'y a pas eu de fleurs, mais ne vous tracassez pas, normalement il devrait refleurir, les années suivantes il devrait refleurir, et puis je vous dis, comme je vous l'ai expliqué, c'est possible que vous ayez quand même des fruits cette année.
D'accord. Est-ce que je dois déjà couper les longues branches qui se développent maintenant ?
Alors,
plutôt en hiver ?
On coupe. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va couper en saison de végétation, on a souvent un écoulement de sève qui se produit, qui fatigue un petit peu la plante. Donc, éventuellement, moi, je conseille de faire plutôt une taille au cœur de l'hiver, fin décembre, début janvier, quand il y a vraiment un repos de végétation complet, ça évite justement ces écoulements de sève.
D'accord. Vous savez tout, voilà, Jeannette.
Merci beaucoup.
À bientôt, Jeannette.
Au revoir.
Merci.
Vos questions à Christophe, notre expert jardinier, c'est très simple, vous nous appelez 02 33 23 13 23.
France Bleu Cotentin.
Chacun parle sa propre langue, très souvent elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus. Soufflant rafale, le temps idéal, c'est chanterai plus. Les rues de ma peine, quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus. Les rues de ma peine, l'amour s'adue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne.
Amir, les rues de ma peine.
France Bleu. Allez les enfants, attachez-vous, en route, et branchez-moi le GPS. Ah, je comprends rien. Hein.
C'est normal, maman, c'est du grec moderne.
Attends, on essaye celui-là.
Lequel? Ah bah là, j'ai reconnu, c'est du portugais. Mais je sais toujours pas ce qu'elle dit.
Écoute, maman, et si on se mettait sur France Bleu Cotentin?
Le jeu du GPS sur France Bleu Cotentin. Vous êtes arrivé à destination.
Tu vois, le jeu du GPS, c'est le samedi et le dimanche à 7h50 et 8h50. Il suffit de trouver la commune de la Manche et c'est gagné.
Pendant les portes ouvertes, gardez toujours un temps d'avance avec Nissan de Soud.
Vous êtes sélectionné pour participer au grand déstockage de 40 véhicules neufs prêts à partir à des prix exceptionnels.
Portes ouvertes du 15 au 18 juin chez Nissan de Soude, Caen, Cherbourg, Saint-Lô.
Et dans son réseau d'agents à Avranches, Carentan et Granville.
Jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin, les experts avec Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Christophe Guérand répond à toutes vos questions ce matin sur France Bleu. Il a son gros grimoire, hein, son livre de botanique avec la couverture en cuir. Il est vachement impressionnant ce bouquin, Christophe.
Ah, c'est un livre qui me suit partout, effectivement, parce que on a son savoir, mais quelquefois on a besoin quand même de vérifier certaines choses. Donc oui, effectivement, il me suit partout depuis longtemps.
Et oui. Marité, bonjour. Marité, bonjour, vous Marité. Êtes avec nous, Marité.
Bonjour.
Bonjour Marité.
Bonjour.
Vous nous appelez de Montfarville.
C'est ça même.
Alors, quelle est votre question, Marité?
Alors, voilà, j'ai un gros pied d'arôme qui est d'habitude magnifique. Et cette année, je ne sais pas s'il a gelé superficiellement cet hiver, le cœur est pourri.
D'accord.
Oui, c'est pas bon signe, ça.
Non, c'est pas. Mais il a redémarré quand même, ce pied d'arôme.
Ah oui, il est magnifique à nouveau, mais quand j'ai nettoyé mon parterre, j'ai vu qu'il y avait des feuilles qui jaunissaient, donc j'ai tiré sur la feuille, et il y a un morceau qui est arrivé, et j'ai mis le doigt, et effectivement, c'est complètement pourri, le cœur.
Oui, mais il faut savoir que cet hiver, même si les températures ne sont pas descendues bien bas, enfin c'est descendu à moins 5, moins 6 quand même, il y a eu le vent assez vigoureux à ce moment-là, et ça a renforcé l'effet du gel, et ça a fait quand même des dégâts sur des plantes qui habituellement résistent relativement bien, dans des régions ou des endroits un petit peu trop exposés au vent, ça a fait quand même pas mal de dégâts, et ça a fait des dégâts sur les arômes. Il faut savoir que l'arôme, c'est quand même une plante originaire d'Afrique du Sud, donc on n'a pas tout à fait le même climat qu'en Afrique du Sud, malgré qu'on puisse accueillir ces arômes sous nos climats, mais ça a pourri, hein. On a eu aussi beaucoup d'eau pendant toute la période du début de l'année, donc un vent froid plus de l'eau, ça a fait que certaines plantes, comme les arômes, ont pu pourrir, mais là, s'il a redémarré correctement, s'il est beau à nouveau, ça devrait s'arranger, et il va reprendre de la vigueur.
Qu'est-ce qu'il faut faire à l'endroit où c'est pourri, le cœur?
Ça va. Éventuellement, vous enlevez, hein, si vraiment il y a toute une grosse masse de végétation qui a pourri, vous enlevez cette partie, de façon à ce que ça ne puisse pas se transmettre aux racines et aux rhizomes qui sont à côté.
Pas que je déplante, par exemple,
S'il se plaît bien là, s'il est là depuis des années et qu'il se plaît bien là...
Ça fait 4-5 ans, il fait des fleurs d'1m30.
Ah oui, donc il n'y a pas de raison. Par contre, peut-être l'hiver prochain, si on avait à nouveau ces difficultés avec ce froid, ce serait de le couvrir un petit peu, de le protéger un petit peu, à la fois des excès d'eau au niveau du cœur de la plante et du froid, hein, en paillant, en mettant éventuellement un voile de protection, de façon à le protéger du plus gros froid. Mais logiquement, les arômes arrivent à résister chez nous, même s'il y a une petite partie qui dégage du fait de ces pourritures-là, dû à des excès d'eau, au froid et à certains champignons. Voilà.
Okay.
Voilà, Marité.
Merci beaucoup.
Passez une bonne journée, Marité.
Merci, Christophe. Merci, Marité.
Au revoir. Au revoir, merci. Mireille, vous nous appelez Difto Bocage. Bonjour, Mireille.
Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Christophe. Mireille. Moi, j'ai un gros souci parce que j'ai la main verte et mes enfants m'ont offert il y a environ 4 ans, ça s'appelle un salix, un petit saule, genre parapluie, hein, comme certains acères qui retombent.
D'accord.
Il était magnifique. Bon, les branches tombent jusqu'au sol et il est conseillé de tailler environ 10 cm du sol. Ce que j'ai fait l'année dernière. Bon, il est reparti impeccable, impeccable. Et cette semaine, il est complètement desséché, desséché.
D'accord. Mais d'un seul coup,
D'un seul coup. Alors, je suis envahie de taupes.
Oui, mais bon.
Mais il n'y a pas de taupes tout près de lui.
Non, mais même s'il y avait des taupes, les taupes ne s'attaquent pas. Les taupes, ce sont des animaux qui sont carnivores, qui vont manger des vers. Donc, quelquefois, il leur arrive de sectionner des racines, mais c'est pour pouvoir passer. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit ça.
Non.
Vous n'avez pas constaté qu'un dessèchement qui aurait commencé par l'extrémité des tiges de ce saule.
Eh bien, j'ai remarqué qu'à l'intérieur, parce qu'il est dense, il est très épais, et à l'intérieur, j'ai remarqué qu'il y avait les bâtons qui étaient secs.
D'accord, mais ce serait plutôt partie de l'intérieur. C'est une plante qui a été greffée sur tige, non? Et qui a. C'est toutes les tiges.
Je ne sais pas, mes enfants me l'ont offert. Non. Il faisait environ, je ne sais pas moi, 40-50 cm. Il fait maintenant 1m50. Il était très très beau. Et alors quand j'ai vu ça, les premières feuilles qui commençaient à dessécher, j'ai mis 3 arrosoirs d'eau, évidemment. Mais les autres arbres, je ne les arrose pas. J'arrose mes plantes, mais pas les arbres.
Un arbre qui est en place depuis déjà 4 ans, normalement, il n'y a pas besoin de l'arroser.
Voilà.
Alors, bon, il peut s'agir éventuellement, c'est une attaque d'un champignon type Phytophthora qui s'est attaqué au niveau des racines, au niveau du collet.
Ah,
et là, malheureusement, si l'arbre a desséché d'un seul coup, malheureusement, il y a plus grand chose.
Ah oui, moi, c'est ce que je me suis dit.
Il y a plus grand chose à faire. Alors, néanmoins, il peut vraisemblablement, c'est ce genre de choses qui a dû se produire. Ce que vous faites pour être sûr du diagnostic, c'est que vous allez gratter quand même au niveau de l'écorce, hein, le plus près possible du tronc, vous grattez un petit peu l'écorce. Si c'est resté vert dessous, il y a éventuellement la possibilité de le voir redémarrer. Si c'est desséché, si c'est complètement sec au niveau de... C'est malheureusement, je pense que c'est malheureusement mort. Ce que vous pouvez faire, c'est gratter au niveau du sol et vérifier si l'écorce au niveau des racines se décolle. Si vous constatez que les racines sont pourries au niveau du sol, là malheureusement c'est fichu, hein, c'est mort. Ça voudrait dire que ce champignon qui s'est attaqué, alors effectivement quelquefois c'est très brutal, hein, en l'espace de 15 jours.
Trois jours, quoi. Ouais, tous les jours dans le jardin.
Ça arrive que même des arbres adultes soient atteints de cette façon-là, et c'est assez fulgurant. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à y faire. Si c'est le cas, si les racines sont pourries, ce qu'il faudra faire, c'est essayer d'enlever l'arbre, essayer d'enlever le maximum de racines.
Oui, pour nettoyer tout.
Et de ne pas replanter immédiatement.